Vous écoutez France Culture.
Au revoir, Monsieur Lang.
Au revoir. À bientôt, j'espère.
Ulysse vers la mer.
Ulysse vers le mare.
Monsieur Lang, on est prêt.
Merci.
Silence, on tourne.
Silencio si gira.
Silencio.
Caméra.
Moteur.
Motore. Partito.
Jack.
Odissea 14702 prima.
Une autre histoire du cinéma.
Avanti.
Azione.
Par Jean Doucet et François Kodak.
Travelling.
Carello.
Aujourd'hui, Eisenstein et Ziga Vertov. Plus le cinéma avance, plus la réflexion sur la machine cinéma, c'est-à-dire tous les moyens de reproduire le cinéma, vont être mis en contribution et surtout permettre une réflexion sur les éléments mêmes qui constituent cette machine. Alors, nous avons vu Sjöström, Stiller, les Suédois. Nous avons vu aussi, très différemment et très personnel, le passage de Stroheim dans le monde du cinématographe et ce qu'il a apporté. Mais en même temps, dans les années 1920-25, l'influence de Griffiths reste toujours capitale. On l'avait déjà vu aussi, par exemple, chez Chaplin. On l'avait déjà aussi reconnu chez Sjöström. On le sait aussi, extrêmement déterminant, chez Stroheim, puisque Stroheim avait travaillé avec Griffiths. Mais la pensée de Griffiths, la pensée du cinéma, va permettre à la révolution russe, et en particulier à deux jeunes cinéastes russes, il y en aura bien d'autres, bien sûr, et tout à fait remarquables par ailleurs, à commencer par Poudovkine, Dovzhenko, ou quelqu'un assez trop peu connu, et qui est Boris Barnett. Mais ce cinéma, ou plus exactement cette pensée révolutionnaire, va prendre comme argument la pensée même de Griffiths, donc la pensée du cinéma dit capitaliste ou cinéma dit américain. Alors, reprenons d'abord Eisenstein. Bon, Eisenstein, on le sait, est considéré comme l'un des plus grands génies du cinéma. Bon, tout cela se discute. Est-ce qu'un génie est supérieur nécessairement à quelqu'un qui a un immense talent qui transforme ce talent en génie, comme certains autres? Donc, la question n'est pas de un problème de supériorité ou d'infériorité. Il faut reconnaître quand même à Eisenstein d'abord une sorte de cohérence absolument magnifique et étonnante de bout en bout, et puis une véritable réflexion qu'il a apportée au cinéma et en même temps aussi dans la création cinématographique. Alors, rappelons en deux mots Eisenstein. Il est d'une bonne famille d'origine, moitié juive de par le père, moitié, disons, arienne, entre trois guillemets de chaque côté, de par sa mère. Cela n'a strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il a une grande éducation et qu'il a une très grande culture. Ça, c'est capital de le comprendre, de le savoir, car non seulement il s'intéresse évidemment à l'art russe, qui est normal, il s'intéresse aussi à l'art occidental, tout ce qui est l'art européen, un tout petit peu l'art américain parce qu'il ne le connaît pas vraiment bien, et puis énormément aussi à l'art oriental. Il est extrêmement intéressé par le théâtre japonais, réfléchira beaucoup sur ce théâtre, en particulier sur le kabuki, et en tirera des leçons qu'il va exploiter ensuite dans son cinéma. Alors, il commence, comme toujours après une révolution, par vouloir avoir une action, c'est-à-dire d'être, comme on disait à l'époque, dans l'agitprop. Et il cherche tout ça dans un contexte proche de Maïkovski, de travailler sur du théâtre qui puisse être un théâtre militant et qui puisse en effet orienter et rendre sensible le prolétariat à la cause marxiste-communiste, léniniste. Mais il se rend compte que ce théâtre, ou le théâtre, malgré tout, a une difficulté à exprimer une vérité beaucoup plus forte qui est celle du réel, et qu'en conséquence au théâtre, on ne peut pas représenter véritablement des ouvriers dans une usine, des prolétaires, et qu'à ce moment-là, ce que décide Eisenstein, qui comprend que seul le cinéma permet cette évolution, permet cette révolution. Donc à l'âge de 26 ans, il va entreprendre son premier film, son premier long-métrage, et ce premier long-métrage sera La Grève. Film déjà clé dans l'histoire du cinéma, film capital dans l'œuvre d'Eisenstein, et film d'autant plus intéressant que c'est peut-être le plus instinctif d'Eisenstein. Le terme d'instinctif pour Eisenstein est quand même un terme un peu léger, car rarement on a vu un cinéaste aussi cohérent et aussi conscient de ce qu'il faisait. Donc l'instinct est un instinct, disons, très travaillé. Dans La Grève, eh bien, il va représenter directement le discours qu'il veut tenir. C'est-à-dire, bon, un discours assez simple, il faut bien le reconnaître, entre le prolétariat qui est complètement dominé, qui est massacré par le patronat, très dominant, etc. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Il veut nous montrer que maintenant, il est temps de faire une révolution profonde, c'est-à-dire de faire en sorte que c'est le prolétariat qui devienne l'objet principal d'un film, et que ce qui est de l'ordre de la bourgeoisie, qui normalement occupe la quasi-totalité de l'intérêt de tous les cinémas mondiaux, et des problèmes de cette bourgeoisie, des graves problèmes sentimentaux, etc., d'un seul coup, renverser la vapeur et dire « maintenant c'est le prolétariat ». Pour ça, il y a d'abord une première pensée que met en place Eisenstein, qui est celle que l'individu, justement, qui est le propre du travail du cinéma bourgeois, ou du théâtre bourgeois, ou du roman bourgeois, donc comment chaque individu réagit à telle chose, tel élément, tel sentiment, telle situation, pour dire, maintenant, il n'y a qu'un seul individu, c'est la masse. Donc, nous allons montrer et filmer la masse par rapport aux individus. En d'autres termes, nous allons montrer la grève, qui est un mouvement de masse, comment des personnages du prolétariat sont dans la grève et ne sont qu'une expression d'un ensemble, mais qui ne appartiennent à cet ensemble et qui ne sont en aucun cas individualisés en tant que tels. Et en revanche, un patronat extrêmement caricaturé, où chaque individu est porteur de tares profondes, et que même quelquefois Eisenstein, avec une symbolique encore plus lourde que celle de Stroheim, manifeste en montrant plusieurs personnages de son film, de patronat ou appartenant à l'organisation hiérarchique patronale. On voit une image d'un personnage et immédiatement après, d'une façon anthropomorphique, un animal, par exemple un personnage qui ressemble à un hibou, et d'un seul coup on voit le hibou qui succède à cette image. Donc Eisenstein, au début du film, a une idée toute simple et remarquable pour représenter ce qu'il va représenter. Il y a un moment, nous sommes dans la cour de l'usine, nous sommes déjà dans le patronat au départ, et nous avons donc tous les patrons, tous les individus, et d'un seul coup, nous sommes dans une cour d'usine, et là, nous voyons les ouvriers se grouper, et c'est à travers et par la caméra qui regarde dans une flaque d'eau, donc dans le noir, qui va se refléter maintenant un ouvrier, et donc passer à l'ouvrier. En d'autres termes, comme si Eisenstein nous disait « Je vais dans le négatif, et dans ce négatif, où est logé dans la représentation cinématographique le monde du prolétariat, je vais le faire surgir et je vais le faire passer à la lumière, je vais le faire passer dans le positif. » c'est une façon première de prendre les choses, de les représenter et en effet d'en faire le discours général du film. Alors ce discours est magnifique avec des idées, là encore, très simples. Il ne s'agit plus du tout de faire ce que faisait Griffith, et là, Einstein est très passionnant, car, comme je l'ai dit précédemment, il attaque tout le cinéma, je dirais capitaliste, à partir de Griffith. Griffith, en effet, comme nous l'avons déjà dit, a travaillé le montage, mais en fait, de la même façon qu'il avait travaillé l'action par l'action sur l'action, qui va devenir le propre de toute la dramaturgie américaine, cinématographique en chantant, il va, dans le même temps, travailler rupture, en effet, d'un plan à un autre plan, mais dans l'idée de continuité. Pas forcément une idée de continuité directe d'une action par rapport à une autre action, non, au contraire, puisqu'il s'amusait à les mettre en conflit les uns par rapport aux autres. Mais une dramaturgie générale, une ligne générale, pour reprendre d'ailleurs le titre d'un autre film de Einstein plus tard, qui, elle, sera toujours en continuité. D'ailleurs, cette fameuse pensée de la continuité sera une des caractéristiques du cinéma américain, au moins jusqu'en 1960. Et Einstein refuse cela. Il refuse, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, maintenant, il va passer à la notion de plan. Jusqu'à cette émission, nous avons plutôt regardé au départ ce que nous avons appelé la vue avec la lumière, ce que nous avons appelé ce que lui-même appelait la vue, ou eux-mêmes appelaient la vue. Nous sommes passés ensuite à l'idée de cadre avec Griffith, et cette idée de cadre est en effet un ensemble qui permet de délimiter et en même temps de voir des rapports entre les personnages et les paysages ou les personnages entre eux, etc. La même chose, on reste toujours à cette idée du cadre chez les Suédois, avec Sjöström et Stiller. On reste encore toujours à cette idée de cadre, mais de façon encore plus forte malgré tout, beaucoup plus appuyée chez Schreim. Mais maintenant, on transforme l'idée du cadre en idée du plan. Donc, un plan a une force, une énergie qui, lorsqu'il est placé, ce plan, à la suite d'un autre plan, crée un mouvement détonnant, comme s'il y avait une décharge atomique entre l'énergie de ces deux plans, et c'est à partir de ce caractère énergétique qu'il va travailler la dynamique. En d'autres termes, pour être clair, il travaille des arrêts, mais sur une succession, par la succession des arrêts, il va créer une dynamique d'une extraordinaire force. Bon, on le sait, on le voit, il suffit de repenser pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui ne l'ont pas vu, leur donner envie de le voir, c'était la fameuse scène de l'escalier de Potemkin, qui entièrement fait sur ces idées. Bon, bien sûr, il y a des mouvements, mais les mouvements ne sont pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le bloc en tant que tel de l'image et son opposition au plan qui suit. Et c'est cette idée très forte de la manifestation du combat, de la lutte, pour être plus précis au point de vue marxiste, est nécessaire de par le monde, en tous les cas dans les sociétés humaines, et peut-être par rapport au cosmos. Mais Einstein travaille peu, finalement, le paysage à la suédoise. Cela ne l'intéresse pas vraiment. Bien sûr qu'il aura d'admirables compositions plastiques qui sera le propre de son cinéma. Et c'est un cinéma quand même extrêmement graphique. Non pas seulement pictural, mais je dirais presque architectural. Il y a une volonté de tension, de torsion de tous les éléments, de toutes les lignes qu'il établit à l'intérieur de ses plans, que on est totalement, je dirais presque écrasé par le côté cérémonial de son cinéma. Alors, ce qui est quand même curieux chez Einstein, c'est que dans sa théorie, qui est une théorie donc très pensée, très révolutionnaire, eh bien, il y a quelques failles. C'est-à-dire qu'au fond, il a beau attaquer le cinéma de Griffith tout en reconnaissant son génie. Attention, ce n'est pas du tout une attaque de mépris, c'est au contraire une attaque de pensée par rapport à une autre pensée. Et surtout une pensée non reconnue comme telle par le cinéma capitaliste, à commencer par Griffith qui n'a jamais su à quel point il servait une idéologie. Pour lui, c'était, cette idéologie était tout à fait naturelle, comme était absolument naturel le racisme violent qui démontre dans des sens d'une nation. Donc, ça ne lui pose pas vraiment de problème. Alors qu'Einstein, lui, idéologie contre idéologie, à ce moment-là, il va mettre cette idéologie en scène. Mais il n'empêche qu'il ne peut pas s'empêcher de continuer l'idée de fiction. Ce que va d'ailleurs lui reprocher au fond Ziga Berthoff. C'est-à-dire que Einstein comprend qu'il faut travailler l'émotion et la sensation et que c'est à partir de cela que l'on peut faire surgir la pensée, qu'on peut faire surgir l'idée et donc qu'on peut arriver au discours directement révolutionnaire. Mais on est obligé de passer par la fiction. Je donne après tout une idée de fiction quand même très violente. On est réaliste, on prétend que le réalisme et que la réalité doit être là, mais quand on fait l'escalade d'Odessa, jamais l'histoire du cuirassé Potemkin, la révolte s'est déroulée sur cet escalier. Cet escalier, c'est une réappropriation par Einstein d'une idée qui en effet permet d'exprimer toute la violence et le discours qu'il veut mettre dans son film. De même, dans d'autres films, il déforme le réel, ou plus exactement, il ne le déforme pas. Il est comme une sorte justement de sculpteur qui tord les éléments et qui veut obtenir une forme nouvelle qui est une forme du réel tel qu'on veut le fabriquer, ce réel. C'était vraiment une idée de fabrication. Mais ce discours qui va suivre, en fin de compte, le discours officiel, va obéir à ce discours, à l'évolution même de ce discours officiel. Si dans la grève, il y a volonté de nier l'individu au profit de la masse, qui est seule digne du combat et digne d'intérêt et du regard, peu à peu, le cinéma de Einstein va glisser vers la montée de l'individu. C'est-à-dire, évidemment, l'individu qui est la personnalité auquel on va consacrer un culte. C'est-à-dire, passer de la grève à Ivan le Terrible, où Ivan est le tsar, dans lequel tout le peuple se reconnaît et qui est l'incarnation même de ce peuple, il y a une petite nuance qui font que 20 ans d'histoire de la Russie et de l'évolution du communisme se manifestent. Enfin, et si Ivan le Terrible, donc, qui est de 1945-48, a choqué Staline, ce n'est pas pour rien, c'est que Staline a parfaitement compris que dans cet apogée que Einstein fait de Ivan, donc de lui par la même occasion, il y a d'emblée une critique interne. Et cette critique interne, c'est que maintenant l'individu a repris tout le pouvoir et prétend commander au peuple. Alors, ce cinéma-là est un cinéma qui veut réinventer du réel, mais malgré tout, va être piégé par la fiction qu'implique cette volonté de réinvention du réel. Il y a d'ailleurs un film qui est très passionnant de Einstein, c'est lui aussi, comme tous ces grands génies de cette époque-là, ont eu des films, a eu son film massacré. Et ce film massacré, il y en a eu deux d'ailleurs, l'un après l'autre. Le premier film massacré, c'est le film qu'il va tourner non pas aux États-Unis, quand il est invité aux États-Unis et il part vers 1930 aux États-Unis. Et en fin de compte, son passé révolutionnaire et militant fera en sorte qu'il ne pourra pas trouvé de travail, enfin lui refusera tous les scénarios qu'il propose, et qu'à ce moment-là, il faudra un écrivain socialisant, Stone Sinclair, qui lui finance un film qui se passerait au Mexique, et ce sera Que Viva Mexico. Alors, dans ce film, on se rend bien compte à quel point le travail d'Einstein sur les compositions, parce que maintenant, s'il fait des plans, pour que ces plans aient leur indépendance et leur énergie interne, il faut justement qu'ils soient aussi construits d'une façon totalement picturale, comme j'ai déjà dit, mais plus que picturale, extrêmement formelle. Des lignes, des courbes, des rapports de diagonale, de verticale, d'horizontale, et ce sont des compositions d'une force étonnante qui, évidemment, ne peuvent pas se marier les unes aux autres. Il est évident qu'à ce moment-là, quand ce sont des plans aussi forgés comme ils le sont, et d'une façon quasiment toujours statique, même s'il y a un peu de dynamisme, il y a très peu de dynamique réellement. Donc, il n'y a pas possibilité d'une narration, d'une suite narrative. Et dans ce film-là, en revanche, donc dans ce qui reste de Que vive à Mexico, on se rend compte comment Eisenstein travaillait. Et avec en plus, là encore, on parlait précédemment avec Schreim de lumière, ici une autre lumière magnifique, celle d'Edouard Tissé, qui irradie le monde qu'il représente. Dans le mouvement d'Eisenstein et en même temps à l'opposé de lui, Ziga-Vertov. Ziga-Vertov, lui aussi, est un théoricien, peut-être encore plus théoricien même qu'Eisenstein, et n'est pas du tout d'accord avec le montage de son illustre confrère. Il considère, lui, que l'ingé de Prot, justement, que ce discours-là est celui qui est capital. Faire des tracts et le cinéma doit servir à ça d'abord. Lui-même, au moment de la guerre civile, à partir de 1919, a suivi beaucoup de jeunes troupes révolutionnaires, les a filmées, et c'est ce filmage qu'il montrait ensuite comme élément de propagande et comme volonté, justement, d'animer le courant directement révolutionnaire. Et cette idée-là va se développer chez lui, c'est-à-dire la volonté de prendre le monde tel qu'il est. Et il va échafauder une théorie qui nous renvoie directement à notre propos, c'est-à-dire qu'est-ce que la machine cinéma ? Ben, la machine cinéma, c'est d'abord un objectif, c'est un œil, et un œil qui n'a absolument pas de sentiment, c'est un œil qui regarde et qui montre. Et donc, on doit filmer uniquement que ce qui est vu est montré ce qui est vu. Mais il condense, mais vraiment sans nuance, tout cinéma de fiction. De façon d'ailleurs violente, trop excessive, et ça, on lui fera payer. Comme il dit lui-même, le drame cinématographique est l'opium du peuple. Abat les fables bourgeoises et vive la vie telle qu'elle est. Donc, son cinéma sera un cinéma de reportage, de journalisme, et c'est ce reportage, ce journalisme, qui doit devenir artistique, et non pas du tout la mise en place des éléments fictionnels qui ont été pensés avant, et donc qui ont été filmés pour représenter cette fiction. Au contraire, chez Ziga-Vertov, donc volonté d'une caméra qui filme le monde tel qu'il est, sans aucune volonté de se l'approprier directement. Donc, une caméra qui soit et qui offre un œil, et donc il invente ce qu'on appelle le ciné-œil, ou le cinéma Pravda, la kiné-pravda. Cet cinéma dit de vérité, mais ce cinéma vérité, c'est une expression qui sera reprise beaucoup plus tard, et qui ne correspond pas vraiment au cinéma de Ziga-Vertov. Ziga-Vertov, c'est un cinéma qui va retravailler toute la mécanique même du cinéma. C'est-à-dire donc un œil qui regarde, qui observe, qui montre, mais qui n'a aucune opinion sur ce qu'il montre. Comme si on veut, il y a quelque chose de secret, comme si Ziga-Vertov, en pensée, plus ou moins consciemment, reprenait la grande pensée orthodoxe, c'est-à-dire du Christ dans la coupole, dont l'œil regarde et observe absolument tous les fidèles qui sont en dessous. La même chose, il y a un plan tout à fait magnifique dans L'homme à la caméra. C'est le moment où on voit en effet un opérateur avec un immense trépied, la caméra au-dessus, en train de surveiller et de dominer entièrement toute une foule en dessous, comme si cette caméra et cet œil-là, prenant tout, enregistrant tout, rien ne peut lui échapper. Et donc, à partir du moment où on travaille sur cette mécanique, il va repenser entièrement tous les éléments de la mécanique. Ralenti, l'accéléré, la marche arrière, comme il l'appelait lui-même, le négatif du temps. Bon, un exemple, dans un de ses films, pour montrer comment fonctionne l'économie, entre autres l'économie de marché, il va tout simplement inverser le processus. Il va partir d'un abattoir où on abat un veau et on va assister à tous les moments qui ont précédé cet abattage pour remonter en fin de compte dans le pré où a brouté le veau et même à la naissance du veau, c'est-à-dire en d'autres termes le mouvement arrière de ce qui a permis la production de cette viande qui va être mise sur le marché. De cette sorte de décomposition de tous les éléments de la vie. En même temps, il utilisera aussi par le dessin animé, les surimpressions, le collage, les teintages. Tout cela sera repris et repensé lui aussi par le montage. Le montage de Ziga Vertov est un montage glacé, froid, où les éléments sont mis côte à côte, sans aucune volonté de les unir par une pensée autre que celle, en effet, de la juxtaposition des événements tels qu'ils se sont déroulés. Et ce cinéma-là sera quand même peu suivi. En tous les cas, en ce qui concerne cette époque, ça sera repris très fortement dans les années 1960, c'est-à-dire 30 ans plus tard, et ce sera même en 68 un retour à cette pensée du cinéma en tant qu'objet à prendre directement à travers son mécanisme et toutes ses possibilités de machinerie, et à ce moment-là, proposer un cinéma absolument autre et tellement autre qu'en fait, Ziga Vertov sera un cinéaste, pour ainsi dire, expérimental, qui aura peu de succès public, en tous les cas, je répète, pendant au moins une bonne trentaine d'années. Toutefois, on peut relier Ziga Vertov, qui s'appelait de son vrai nom Kaufmann, à son frère, Boris Kaufmann, qui était chef opérateur. Et ce Boris Kaufmann, chef opérateur, sera l'opérateur de Jean Vigo. Et quand on voit le cinéma de Jean Vigo, bien sûr, il n'obéit pas à tous les principes et les préceptes de Ziga Vertov, mais il y a des idées, en particulier dans les idées d'association d'images chez Jean Vigo, qui viennent directement de la pensée de Ziga Vertov. Ziga Vertov reste quand même, je le répète, avec Eisenstein, le cinéaste le plus novateur du cinéma, non seulement russe, mais d'une certaine conception du cinéma par rapport à la machine cinéma. C'était une autre histoire du cinéma par Jean Douché. Son Alain Joubert, mixage Noélie Pellegrin, réalisation François Connac.
Vous aimez quand ça finit bien, mademoiselle?
Ah oui, monsieur.
Moi aussi.